Bonjour et bienvenue au show radio Mythe en Dialogue, épisode numéro 84. Cet entretien est avec Céline Brugnon et Sandra Massio, les deux cofondatrices d'un nouveau concept novateur, My Beautiful Dressing. C'est un concept qui pourrait bouleverser le monde de la mode, en tout cas le rendre plus accessible à un plus grand nombre. Nous y discutons de leurs modèles, les relations avec les marques et leur manière de marketer leur site. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog MinterDial.fr, où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais, TheMindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue. Aujourd'hui, je suis à New York sur Skype et j'ai deux femmes qui ont lancé un concept formidable qui est en France et je vous prie donc de vous présenter.
Bonjour, donc je suis Céline Brugnon, la cofondatrice de My Beautiful Dressing.
Et Sandra Massio, aussi cofondatrice.
Et Managing Director.
Oui.
Voilà, c'est ça. Alors, My Beautiful Dressing, racontez-moi ce que c'est et quel est le principe. Voilà.
Alors, My Beautiful Dressing, donc, c'est un site qui propose la collection, qui propose de mettre en fait les clientes du monde entier au premier rang des défilés. Jusqu'à présent, uniquement pouvaient assister aux défilés les rédactrices de mode et les acheteuses. Et nous, on propose de retransmettre les défilés en live sur le site et de précommander en fait les collections directement à la sortie des défilés. Donc au lieu d'attendre la sortie en boutique 6 mois après, nous, on peut livrer nos clientes un peu avant tout le monde, c'est-à-dire entre 1 mois et 2 mois avant la sortie en boutique. Et surtout, nos clientes ont les mêmes avantages qu'une acheteuse, c'est-à-dire qu'elles peuvent vraiment avoir la pièce qu'elles souhaitent, dans la taille qu'elles souhaitent, dans la couleur souhaitée, voilà, être sûres de pouvoir avoir tous les modèles d'une collection.
Alors, est-ce que ce serait juste d'utiliser le mot la démocratisation de la mode, enfin de la haute mode?
Oui, tout à fait. C'est la démocratisation de la mode, puisque comme Céline vous l'a expliqué, c'est vraiment ouvrir au plus grand nombre cet accès vraiment exclusif normalement aux rédactrices de mode et aux journalistes. Donc c'est tout à fait le cas. C'est vraiment on se positionne en fait comme une acheteuse professionnelle. Nos clientes sont le grand public, la cliente finale, mais on lui permet de commander 6 mois avant ce qu'elle portera la saison prochaine. Donc c'est vraiment une démocratisation, tout à fait.
Et comment est arrivée l'idée? C'est né où?
Alors en fait, on s'est rendu compte que donc on était toutes les deux assez fashionistas, on suivait beaucoup les Fashion Week et on s'est rendu compte qu'au moment des Fashion Week, il y avait vraiment une effervescence, une attraction des clientes du monde entier pour les défilés des Fashion Week et qu'en fait, on n'avait jamais la possibilité à ce moment-là de commander. Et en discutant avec les créateurs, c'est vrai que c'est vraiment dommage parce qu'on voit les défilés qui seront transmis partout à la télévision, dans la presse. Et il n'y a aucune solution, mis à part venir dans une boutique dans 6 mois ou 8 mois pour essayer de retrouver la pièce. Et souvent, elle n'était pas forcément produite. Donc c'est comme ça que nous avons eu l'idée.
Je comprends. Alors, vous êtes en train de confronter l'idée de cette mode haut de gamme qui a comme objectif généralement d'être dans l'exclusivité, dans un espèce de secret. Et vous ouvrez, on va dire quelque part, les écrans dessus. Est-ce que ça a été bien reçu partout?
Oui, parce qu'en fait, c'est maintenant avec Internet, tout va plus vite. Internet donne aussi un accès au plus grand nombre, par exemple, des boutiques qui sont concentrées souvent dans les capitales. Et maintenant, avec le e-commerce, on peut donner vraiment un accès à toutes les femmes qui sont, par exemple, en province et qui ne vont pas avoir des boutiques de luxe à proximité. Donc, vraiment, c'est un nouveau circuit de distribution qui a... c'est sûr qu'on écourte vraiment ce circuit, mais tous les créateurs ont vraiment compris le besoin de passer par la précommande, déjà par plusieurs, sur plusieurs points, parce qu'on peut directement à la fin d'une vente leur donner des statistiques sur ce que la cliente finale sur les produits, excusez-moi, sur les produits que la cliente finale va aimer. Et donc c'est vraiment un outil pour gérer leur stock avant la production.
Alors, oui, mais si je vous écoute, et ça dépend des marques, mais je connais pas mal de créateurs qui, que quelque part, on va dire, ils ne sont pas aussi intéressés par le côté économique. Ils sont sur l'art qui est présenté, et que ça se vend ou ça ne se vend pas, il n'est pas ou elle n'est pas aussi intéressée par ces éléments-là, qui sont des propos plutôt business.
Ah oui.
J'en ai vu.
Je pensais quand même que tous les créateurs étaient intéressés de vendre leur collection.
Oui, mais enfin, c'est-à-dire que ça dépend. Évidemment, il y a ceux qui sont plus commerciaux que d'autres. Mais parfois, j'entends que le créateur, il est là pour exposer le bienfait de son truc.
Oui, par exemple, c'est vrai qu'il y a certaines marques qui ne vont pas spécialement un peu comme en haute couture. Ils vont plutôt faire leur business sur les parfums, les accessoires, les produits dérivés. Voilà. Mais bon, c'est quand même en général, c'est vrai que les créateurs font le défilé et fabriquent une collection pour la vendre au plus grand nombre et le mieux possible.
Alors...
Maintenant, en plus, pardon, je rajoute un point, mais c'est vrai que maintenant les défilés deviennent des spectacles. Tout le monde fait. Il y a beaucoup d'argent dépensé sur les défilés parce qu'ils savent que tous les médias maintenant reprennent les défilés et c'est diffusé partout. Je veux dire, aucun média ne retransmet pas. C'est défilé. Et donc, c'est vrai que les créateurs comprennent très rapidement qu'il faut monétiser cette audience. Et par nous, ils peuvent le faire dès le départ. Donc, à part des grands noms, comme vous le disiez, par exemple Chanel, ou qui ne veulent pas, qui font plutôt une comment dire, c'est plus sur vous n'allez pas trouver la pièce. Donc, comme vous disiez, l'exclusivité. De la rareté, merci. La plupart, quand même, veulent commercialiser leur marque et on n'a pas eu de grandes problématiques à les convaincre de collaborer avec nous sur ce site.
Alors parlez-nous de votre le choix, l'éventail de choix, les marques et surtout dites-nous comment vous êtes arrivé à trouver, convaincre ces marques de vous joindre.
Alors en fait, le choix, ça s'est fait le choix de marques qui défilaient. Donc c'est vrai qu'on a vraiment commencé à contacter les marques qui avaient un défilé donc, et qui faisaient partie du calendrier officiel, par exemple en France, de la mode. Et ensuite, on a un petit peu ouvert à d'autres créateurs. Après, c'est plus notre choix personnel de My Beautiful Dressing. Donc, on sélectionne en interne. On est une petite équipe de passionnés de mode. Et donc, on sélectionne en interne les marques qu'on a envie de montrer. Là, c'est assez objectif.
C'est bien. J'aime bien avoir une patte. Et la réception des marques là-dessus, alors, pour les contacter. Est-ce qu'il y avait comment il fallait démarcher?
Voilà, pour les contacter, c'est vrai qu'au début c'était un petit peu dur parce que c'est complètement nouveau. On est les seuls à faire ça, à faire ce principe de précommande en Europe. Donc au départ, c'est vrai qu'ils étaient un petit peu réticents. Et puis on a fait une première saison et ça s'est bien passé. Et là maintenant, de plus en plus, les créateurs nous sollicitent pour être sur My Beautiful Dressing. En fait, je pense que l'environnement de marque est très beau, le site est très beau graphiquement. C'est vrai qu'on peut aussi apporter un contenu éditorial. On met vraiment en valeur le créateur et la marque. Notre but, c'est vraiment, avant tout, de mettre en valeur les designers, la marque, les marques, la mode, et donc de faire découvrir. Donc pour les créateurs, ça leur donne, on leur sert un petit peu de baromètre, comme vous expliquez Sandra. Ça leur donne un retour direct du grand public, enfin des clientes du monde entier,
sur leur collection. Avant, ils avaient, le seul retour qu'ils avaient, c'était la presse sur une collection. Et les acheteuses, là, ils touchent par notre biais directement la cliente finale. Donc, c'est vrai que les créateurs sont vraiment été convaincus dès la deuxième saison.
Alors, donc vous travaillez autour des saisons, donc printemps et automne, principalement. Et comment vous faites entre deux ?
En fait, entre deux, on suit également les pré-collections. Donc maintenant, c'est vrai qu'il n'y a plus seulement que printemps, été, automne, hiver. Il y a entre deux les resorts, les pré-collections. Donc ça fait déjà donc, le double pour l'année. Et puis maintenant, on suit de plus en plus les fashion week émergentes comme Sao Paulo, Moscou, Berlin, Barcelone, le Brésil, etc. Donc on essaie de développer de plus en plus et finalement ça occupe à peu près un peu plus de 8 mois de l'année en fait en fonction, parce que nous c'est vrai qu'on n'est pas que sur la France, on essaie de satisfaire hein, les clients du monde entier, donc on suit aussi Singapour, enfin les clients d'Asie, etc. Donc non, en fait ça nous occupe toute l'année.
Alors... Et après en fait on a couplé cette offre avec une offre en boutique qui propose la collection la collection en fait qui est actuellement en boutique avec une livraison en 48 heures 48 heures 72 heures dans le monde entier et ça c'est par un accord avec les créateurs que nous avons lors des Fashion Week et qui donc nous aide à communiquer sur leurs pièces, à les mettre en vente sur le site.
Alors question plutôt par curiosité. Voilà, parce que si on n'est plus, en effet, sur les deux grandes collections de l'année, il y a des collections tout au long de l'année, ce qui est mieux pour votre rythme de travail. Mais est-ce que vous arrivez à cerner des grandes tendances, finalement? Ou est-ce qu'il y a un lissage dans ces éléments, il y a un peu de tout? Comment est-ce que vous décriez? Parce que vous avez quand même une vue spéciale de pouvoir voir le monde entier, tous ces différents événements.
Ben, on voit quand même clairement se détacher quand même des grandes tendances. Après, c'est vrai que en fonction des pays, ça peut être assez différent parce que certains créateurs, par exemple, vont défiler à la Fashion Week de Paris, mais également à la Fashion Week de Singapour. Et donc, c'est vrai qu'on note des collections assez différentes qui sont faites plus pour une clientèle asiatique. Voilà, c'est aussi, ça peut être aussi ciblé, évidemment, que la Fashion Week de Sao Paulo, c'est complètement différent de la Fashion Week de New York. C'est vrai que c'est, voilà, on va avoir des choses un peu différentes, mais c'est vrai qu'on voit quand même, on arrive à avoir des tendances, des grandes tendances se détacher.
Comment est-ce que vous, quel est le modèle économique? Comment est-ce que vous gérez les stocks, les prix? Expliquez-nous cet aspect-là.
Alors, comme je vous l'expliquais, en fait, par rapport aux précommandes, nous n'avons pas de stock puisque nous achetons uniquement ce que notre clientèle nous commande. Mmh. Donc là-dessus, une fois, en fait, alors le système est le suivant, la cliente va précommander de suite après le défilé l'article qu'elle souhaite en versant un acompte de 50%. Une fois la vente terminée, sur le site, elle dure à peu près entre une semaine et 15 jours. Une fois la vente terminée, nous passons commande au créateur. Lui part en production. Cette durée de production est environ de 3 mois. Et ensuite, nous livre. Nous récoltons les autres 50% du montant et nous livrons notre clientèle. Donc c'est vraiment, nous n'avons pas une logistique à garder du stock sur place pendant des semaines, pendant des mois. C'est vraiment, on contrôle la livraison du créateur et on livre immédiatement la cliente.
Ah, c'est cool.
Donc on a, oui.
C'est léger comme ça.
Tout à fait.
Et là, vous avez donné donc le free shipping, la livraison gratuite et particulièrement donc en France et ensuite même jour pour Paris. Combien est-ce que c'était difficile, facile de mettre en place ce dispositif?
Ben c'est assez simple en fait. Nous offrons en effet la livraison et le retour gratuit pour la France. par coursier dans la journée à Paris. Bon, ça, c'est très simple parce que c'est à la limite plus simple. Nous, on a des traits, on a un très joli emballage, c'est assez luxueux, on a une belle boîte, etc. Donc, c'est plus simple de l'envoyer par coursier que de l'envoyer par voie postale, etc. C'est quand même plus pratique. Et puis ensuite, pour tous les autres pays, nous avons une livraison payante vraiment au minimum et un retour gratuit.
Et au niveau des retours, où est-ce que vous en êtes ? Comment ça se passe ?
Pour l'instant, on a de la chance, on n'a pas beaucoup de retours. On a eu moins de 2%, même pas, à peine de retours, donc c'est très très peu de retours.
En fait, les retours, ce qu'on a remarqué, peut-être les quelques retours que l'on a eu, c'est au niveau de la taille. Et c'est vrai que la plupart des clients qui ne sont pas sûrs de leur taille nous appellent ou s'adresse à notre service client pour savoir exactement la taille qu'il leur faut. Donc, comme nous sommes avant la production, nous pouvons demander au créateur des détails sur les différentes mensurations du produit et nous pouvons donc conseiller la cliente sur la taille qu'elle doit prendre, la taille qui lui ira le mieux. Donc, dans ce même esprit, nous avons développé également un algorithme de taille qui sera mis en ligne la saison prochaine, où la cliente pourra rentrer toutes ses mensurations et en fonction du produit qu'elle choisit, elle aura exactement la taille qui lui convient. Pour vraiment essayer de réduire au maximum tous les retours, parce que les retours sont vraiment sur un problème de taille, mais pas un problème de qualité ou de look d'un produit, c'est vraiment au niveau de la taille. Donc on veut essayer de réduire au maximum par ce conseil et cette aide à notre client.
Pour avoir travaillé dans ce milieu, et puis pour avoir mon corps à moi, je vois comment les corps peuvent être différents de l'ergonomie, mais il y a des morphologies qui sont différentes. Est-ce que vous avez aujourd'hui un langage que vous avez développé ou qui, juste par votre histoire, quand vous parlez avec parce que c'est plutôt des femmes, j'imagine, de manière, parce qu'il y a tellement de tailles différentes, et comment est-ce qu'un designer il coupe sa coupe par rapport à quelqu'un d'autre, comment est-ce que vous gérez ces éléments-là, parce que ça, parfois, c'est tellement subjectif, j'ai envie de dire.
En fait, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est par rapport au... Alors, on a quand même une... Les créateurs vont nous dire au départ, ce pull par exemple est oversize, celui-ci il se porte plutôt serré, donc ils vont nous faire cette première indication qu'on pourra donner à la cliente, mais ensuite, comme je vous expliquais, on est vraiment sur un conseil spécifique, on va leur dire donnez-nous vos mensurations et nous vous dirons quelle taille correspond et quelle taille vous devez prendre, en plus de la coupe. Parce que peut-être que nous on va lui dire ce produit il faudrait que vous le preniez comme ça parce qu'il se porte oversize, mais si la cliente elle veut ce pull peut-être un peu plus réduit, on la conseillera et on lui dira prenez peut-être la taille en dessous ou deux tailles en dessous. C'est vraiment une écoute et un travail, une collaboration avec le créateur, parce que le créateur doit vraiment nous indiquer ses mesures et comment se porte tel ou tel produit.
C'est cool. Alors, donc, par rapport à My Beautiful Dressing, donc, probablement une question pour Sandra davantage, quelle est votre stratégie de déploiement de accroître le business ? Quelle est votre stratégie marketing, si on utilise une terminologie ?
Alors, en fait, ça passe par quatre principaux axes. Tout d'abord, nous voulons augmenter notre notoriété, notre légitimité. Pour ce faire, on collabore en fait avec des attachés de presse qui communiquent autour de la Fashion Week, de la précommande, et qui peuvent nous apporter ce côté légitime et donner confiance en fait aux clientes de précommander sur le site et d'expliquer également notre concept, parce que comme on vous a dit, c'est nouveau ce circuit de distribution, et donc en fait il faut éduquer la cliente et lui apprendre ce que c'est la précommande, parce que bien évidemment il va falloir qu'elle attende 3 mois, donc il faut retirer tous ces freins. Et c'est vrai que les journalistes nous aident beaucoup pour évangéliser un petit peu ce nouveau concept. Après, on est très actifs sur les réseaux sociaux. Comme nous sommes dans la mode, bien évidemment, on est énormément aidés par exemple par Pinterest et Instagram, qui vont nous aider à poster par exemple des backstage défilés, les photos des collections. Et donc, d'être vraiment très actifs et se servir servir voilà, de ce réseau pour faire parler de nous. Alors, ça peut être également vraiment une action de notoriété, mais ça va être également une acquisition de trafic plus ou moins qualifié sur les réseaux sociaux. Bon, voilà, ça peut être plus du mass-média, mais on essaye quand même voilà, de montrer une image luxe, donc d'essayer de qualifier ce trafic. Après, on a mis en place plusieurs partenariats avec également des plateformes d'affiliation, avec des médias, pour pouvoir vraiment s'adresser à cette clientèle qui est une clientèle... J'ai souvent l'envie de dire clientèle de niche, mais c'est vrai que c'est une clientèle, on s'adresse à une femme qui a à peu près entre 30 et 50 ans, même 25-50 ans, CSP+, et qui n'est pas forcément une parisienne ou new-yorkaise qui a accès au magasin, comme je vous disais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu plus retiré, qui n'a pas les magasins, donc il faut réussir à vraiment contacter cette cliente-là. Et de faire du mass-média, ça ne nous intéresse pas. Voilà, ce n'est pas notre objectif à court terme. C'est vraiment de contacter des clientes qui peuvent potentiellement convertir sur le site.
Plutôt du PQ.
Tout à fait.
Voilà. J'ai toujours du mal avec cette expression. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène de personnes, parce que je le vois en tout cas dans mon petit réseau, de femmes qui ne sont pas contentes de l'expérience en magasin, et donc même si elle va vivre à Paris ou à New York, elle va se dire ben, je préfère de le faire à distance. Est-ce que vous en avez aussi de ça?
Oui, on en a aussi, parce que c'est vrai qu'on voit une femme qui est très active, qui travaille beaucoup, elle n'a pas envie d'aller faire du shopping, elle n'a pas le temps, ou elle a envie mais elle n'a surtout pas le temps, et là on voit arriver des commandes de femmes par exemple de Londres à minuit, voilà, des femmes très actives, elles se couchent, elles font leur shopping tranquillement dans leur lit, elles voient un magazine aussi, elles voient une fashion week, elles voient un magazine, hop, elles vont directement, elles commandent, c'est instantané, c'est vrai, c'est un peu l'instantané, donc voilà, il y a aussi cette clientèle-là.
Alors, au total, vous avez une clientèle combien français par rapport à l'international?
Majoritairement, depuis l'ouverture du site, on avait une clientèle environ 70% étrangère par rapport à la clientèle française. Donc, principalement acquise via les réseaux sociaux, d'accord, puisque nous n'avions jusqu'à présent fait aucune communication autour du site. Nous avons commencé, comme je vous l'ai dit, avec une attachée de presse en France, et donc nous avons vu sur la dernière Fashion Week qu'on était... autour, on avait bien remonté, on était autour de 45% françaises et 55% internationales. Mais là, comme je vous expliquais, nous allons mettre en place une stratégie marketing à partir du mois prochain, où nous ciblons principalement la clientèle à l'international. On est un site français, on a cette image de la mode à la française, mais nous savons que notre clientèle est vraiment étrangère.
Oui, tout en ayant un nom URL anglo. Enfin, dressing, c'était plus français, on va dire. Mais donc, vous parlez de clientèle. Est-ce que vous avez plus de transformation d'un type de clientèle qu'un autre? Quand vous avez des visiteurs, vous avez plein qui viennent, mais pas tout le monde font la transformation en client. Est-ce que vous avez un regard ou quelque chose qui permettrait de comprendre mieux ce qui marche le mieux pour eux?
Comme je vous ai expliqué, en fait, depuis le début, nous essayons d'avoir vraiment un trafic qualifié sur le site, donc vraiment des acheteuses qui potentiellement peuvent convertir leur visite en achat. Donc, ce dont on s'est rendu compte, c'était que notre clientèle qui achetait était à l'international plutôt une femme d'un certain niveau social, avec un fort pouvoir d'achat. Par contre, ce qu'on a pu voir en France, c'est qu'on pouvait avoir vraiment peut-être ça serait plus des modeuses, des fashionistas, mais qui ont peut-être un panier d'achat beaucoup, beaucoup moins élevé. Mais voilà, comme je vous disais, les personnes qui viennent sur My Beautiful Dressing savent ce qu'elles vont trouver, c'est-à-dire cette exclusivité de précommande. Et donc, on ne va pas avoir de la masse qui vont venir juste pour visiter. C'est vraiment quand même des clientes qui peut-être vont venir au moment de la précommande, donc juste au Fashion Week, qui vont adorer des articles et qui ne vont pas acheter au moment de la précommande, mais qui vont revenir 5 mois après, se disant « je vais peut-être encore retrouver ma pièce que j'avais vue lors de la Fashion Week, et maintenant que la collection est sortie en boutique, je vais peut-être la trouver sur ma Beautiful Dressing ». Donc voilà, on s'est rendu compte de cela, et on peut, grâce à notre concept, vraiment fidéliser notre clientèle du début, enfin, du moment des Fashion Week jusqu'à la sortie en boutique. Donc on a vraiment plus d'impact sur elle qu'un autre site e-commerce qui vendrait uniquement la collection quand elle sort en boutique.
Ça, c'est sûr. Et alors, vous avez dit qu'il y avait 4 volets dans le marketing. Et vous avez dit par ailleurs que le social media était probablement le plus efficace. Est-ce que c'est vrai ça, juste pour confirmer? Et ensuite, de dire sur les médias sociaux, vous avez noté Pinterest en particulier, mais est-ce que quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un, pas forcément dans la mode, parce que je ne sais pas parler des secrets d'État ou aux autres, mais qu'est-ce que vous pourrez dire qui est le moyen le plus fort en termes de travail marketing dans les médias sociaux?
Alors, quand je vous disais les médias sociaux à l'international, puisque nous n'avons pas fait de communication, c'est vrai que les clientes viennent grâce au référencement, par des recherches Google, par le référencement du site, mais également par les médias sociaux. Après, nous allons travailler pour les recruter d'autres manières, avec des opérations spéciales, avec des affiliations, comme je vous disais, ou de la presse.
Vous faites du retargeting aussi?
Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, on a toute une stratégie qui va se mettre en place dans les mois à venir. Après, un conseil, ça serait donc un conseil par rapport à des sites e-commerce ou par rapport à...
Oui, des gens qui veulent utiliser les médias sociaux pour driver leur business, que ce soit e-commerce ou pas.
Il faut être, de toute façon, sur les médias sociaux pour que les adhérents, enfin les fans, vous voient, il faut communiquer perpétuellement, c'est-à-dire quotidiennement, donner des nouvelles infos, ils veulent de l'exclusivité. Sur les médias sociaux, c'est ça. C'est pour ça que je vous disais, par exemple, sur Instagram et Pinterest, ce qui marchait, c'était par exemple les backstage, les célébrités qu'on peut voir au premier rang des défilés. C'est vraiment des infos exclusives. Et voilà, quotidiennement, leur donner ces nouvelles infos. Alors, c'est sûr que, par exemple, si vous donnez des infos qui sont reprises par tous les médias, je pense que là, ça ne sert pas à grand chose. Il faut vraiment être le premier à poster et à donner sa version exclusive de ce qui s'est passé. Voilà.
Alors, comment est-ce que vous êtes structuré pour travailler sur les médias sociaux? Donc, dans le cambrio en interne, vous avez community manager, agence, vous, comment ça se passe?
Non, nous travaillons en fait avec un community manager en interne qui est vraiment dédié à tous les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes et donc qui passe sa journée sur les posts. Voilà, c'est vraiment un poste à temps complet.
C'est sûr. Et alors, quand cette personne prend des vacances?
Elle ne prend jamais en vacances.
Pas sûr.
Elle ne prend pas en vacances. Nous sommes une start-up. Oui. Il ne faut pas partir en vacances.
Et vous, est-ce que vous participez dans le regard des tweets? Comment ça se passe? Vous avez programmé à des heures particulières par rapport à votre audience?
Alors, on programme pas en fait, puisqu'on s'est rendu compte, la petite info, c'est que quand on programme des posts, nos statistiques, par exemple sur Facebook, déclinent. Ils prennent en compte vraiment tous les aspects. C'est vrai, quand on programme un post, il est moins vu par nos fans. Donc, on a fait des études tout au départ en postant à plusieurs moments de la journée pour les pays internationaux et la France, et on a vu quel horaire ou quel jour fonctionnait le mieux. Et depuis, donc, on a vraiment axé notre stratégie sur les périodes où on a vu des meilleurs résultats.
Et quand vous dites que vous ne programmez pas, c'est-à-dire que chaque fois que vous faites un tweet ou un post, c'est en direct?
Tout à fait.
Et donc, vous ne faites pas dans la nuit alors? Parce que j'imagine New York fin de journée, donc ça veut dire 1 heure à Paris, vous n'êtes pas là-dessus, si je comprends
alors,
bien.
Pour le moment, non. Alors, comme je vous ai dit, la community manager ne prend pas de vacances, donc si en plus je la faisais travailler.
Ah, bah oui, d'accord.
Non, mais par exemple, quand il y a vraiment des informations, quand on suivait les Fashion Week à New York, par exemple, là, forcément, on postait un peu plus. On programme plus. On essaye, dans la majorité des cas, de pouvoir poster en direct. Mais voilà, comme vous le dites, sur certains pays, on est obligé de programmer, puisque voilà, le décalage horaire ne nous permet pas d'être actif 24 heures sur 24.
Et pour surfer sur Sephora, le week-end ?
Oui, tout à fait, le week-end également.
Donc, vous avez quelqu'un qui poste en direct le week-end aussi. Est-ce que le week-end est plus ou moins fort en termes de trafic, enfin en termes de engagement, etc. sur les réseaux sociaux ?
On a plus remarqué en fait les jours comme le mardi et le jeudi qui sont vraiment deux journées où le trafic est beaucoup plus fort. Le week-end, c'est vrai que là, bon, on va rentrer en France dans l'hiver, donc on va avoir, je pense, plus d'impact le samedi, c'est plus le jour que le dimanche. Mais c'est vrai, jusqu'à présent, les beaux jours, je pense qu'on a eu moins voilà, de trafic le week-end que la semaine. C'est ce qu'on a pu repérer ces derniers temps.
Et le mardi et le jeudi, vous avez une explication ?
Alors écoutez, l'explication...
Non, mais c'est parce que le mercredi, il y a tout le monde s'occupe des enfants ou je ne sais pas.
Voilà, le lundi, c'est la reprise et le vendredi, on pense au week-end.
Voilà, c'est rigolo. Non, mais c'est pour rire. Mais bon, je vous remercie beaucoup d'avoir participé, de me rejoindre sur le podcast. Dites-nous, on a parlé juste avant, vous avez une idée de quelque chose, une offre pour les auditeurs. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce que pourrait être cette offre ?
Alors, on pourrait proposer, par exemple, aux 5 premières personnes à se connecter de leur faire une remise de 30% sur tout le site. Les 5 premières personnes qui tweeteraient. Le concept un petit peu du site, voilà, My Beautiful Dressing propose de précommander les collections à la sortie des défilés. Voilà, le petit tweet.
On va leur demander de faire un hashtag pour se reconnaître.
Tout à fait.
Je mettrai ça dans les show notes après. Donc on organisera. Donc si vous voulez, vous allez sur les show notes pour récupérer le moyen de gagner les 30%. Et enfin, question pour vous, Céline et Sandra, comment est-ce qu'on peut vous contacter, vous suivre, savoir plus sur vous?
Ben sur le site directement dans contact il y a de voilà il y a tout sur donc mybeautifuldressing.com, vous avez toutes les informations.
Parfait. All right.
Merci beaucoup
Sandra, Céline, merci à vous, belle journée,
merci. Bonne continuation.
Merci de nous avoir rejoints sur cette émission de Minter Dialogue, le podcast du digital marketing en français. Vous trouverez les show notes sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Vincent Ducret, conseiller Internet au gouvernement et créateur du Hub Forum, Jacques Lande de Laura Merlin, Marc Rougier, président et cofondateur de Scoopit, Gilles Barbier, PDG de Dimaou, ou encore Eric Blau, PDG d'Awakit. Sinon, vous pouvez me suivre sur mon tuto français, MDIALFR ou bien sur MDIAL où je tweet en anglais. Enfin, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site anglophone themindset.com themindset où j'écris sur les enjeux des marques et le digital marketing. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation où que vous soyez en train de l'écouter.
Coming up on 5 Minute News, I'm Anthony Davis. You might think it's partisan because maybe it's critical of one side or the other, but it's not. It's just the truth. And I think that's also something that's kind of unusual for Americans listening to the radio or to podcasts, because the news landscape in the States has been so partisan for so many decades. So 5 Minute News is verified, truthful, independent, unbiased, and essential world news daily.